Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Esprit Sport où nous allons une nouvelle fois passer une heure ensemble avec autour de moi une équipe presque type. Fidèle au poste, derrière les manettes et avec une confidence aujourd'hui en cette fin d'année, elle réalise cette émission en chaussettes. Bonjour Corinne.
Bonjour, ben oui, je profite d'être seule dans, dans la régie pour n'infliger ça à personne en effet.
Ben merci, c'est pas moi qui l'ai dit. Week-end sur les terrains en mission d'observation d'arbitre, même avec 0 degré au mercure. Bonjour Corentin.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Vous, c'était double paire de chaussettes ce week-end.
Double paire de chaussettes et double match. Un match samedi soir et un match dimanche après-midi.
Eh ben dites donc, avec ce froid.
Avec ce froid.
Comment ça s'est passé?
Pas beaucoup de buts. Pas beaucoup. Et un jeu très âpre, on va dire. Très compliqué bien. Sur le terrain.
Et puis, comme dans chaque équipe, il faut faire tourner les effectifs. Elle est avec nous en direct avec un très joli pull. Bonjour Anne-Françoise.
Et bonsoir. Et oui, moi je suis l'outsider de l'équipe.
C'est
je
ça.
Reviens.
Je reviens de retour I'll pour vous jouer un très joli tour. C'est pas vous qui allez vous occuper de la chronique aujourd'hui?
Eh ben non.
Eh ben non. Bon, c'est pour vous dire, parce que les chroniques écologie, bon...
Oui, ça va bien un peu, mais enfin, on a vite fait le tour.
Non, on adore vous écouter.
Mais je peux parler d'autre chose que d'écologie, Jonathan.
Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, puisqu'on va commencer dans quelques instants par les tops et les flops de l'équipe du jour. À suivre un entretien en face-à-face avec un champion du monde de beach wrestling.
Wrestling.
Exactement, voilà, c'est aussi par l'anglais. C'est de la lutte sur sable. Il était champion du monde en octobre 2023. Il sera à notre micro pour nous en dire un petit peu plus sur sa discipline, son parcours et son titre de champion du monde qu'il a acquis en Turquie il y a quelques mois. Après ce week-end, vous le savez, le plateau d'Esprit Sport se pose beaucoup, toujours beaucoup, beaucoup de questions. Et le lundi, on essaie d'y répondre. On va se projeter vers les JO 2024. Avec ses équipes en sport collectif, la France consolide ou augmente-t-elle ses chances de médaille d'or au JO 2024? On essaiera d'y répondre dans quelques minutes. On retrouvera aussi une chronique sur l'US Revel qui, si vous ne l'avez pas entendu, recevra le PSG en Coupe de France. L'équipe de foot amateur en Régional 1 recevra l'ogre du PSG, les champions de France en titre. Ce sera à suivre avec le rédacteur de La Voix du Midi, Laura Gay, Paul Albedel, qui sera avec nous pour nous parler de l'US Revel. Il a vécu ce tirage au sort au cœur de l'équipe. Il sera avec nous juste après l'interview. Et évidemment, on terminera par un pronostic et une analyse du match de week-end. Mais tout ça, ça commence juste après l'information sportive en région avec Corinne Saint-Félix. Et c'est tout de suite.
L'info sport avec Corinne Saint-Félix.
Maxime Pianfetti conserve son titre de champion de France en escrime sabre.
Le Tarbé de 24 ans a été sacré champion de France pour la deuxième fois consécutive dans un remake de la finale de l'an passé contre Elliott Bibi. Avec ce nouveau titre national, le tireur Tarbé a fait passer le compteur de l'ATE à 200 titres de champion de France de sabre, toutes catégories confondues, une semaine après avoir gagné une médaille d'argent décrochée au GP d'Orléans. Chez les dames, la Tarbaise Malti de Mourou a également réalisé un très bon parcours jusqu'en demi-finale où elle a chuté 13 à 15 face à Cécilia Berder du cercle d'escrime orléanais, la future championne de France. Après un podium international à domicile la semaine dernière au Grand Prix d'Orléans, Cécilia Berder a montré qu'elle avait retrouvé un excellent niveau pour remporter son 5e titre national.
Quelques résultats côté féminin.
En rugby féminin élite 1, phase de qualification, le Stade Toulousain a vaincu 7 à 10 les voisines de Blagnac Rugby. Les Violettes en Détroit ont corrigé 9 à 0 l'Olympique de Valence, une défaite très lourde qui fait suite à une autre 13 à 0 contre Strasbourg en coupe. Les Toulousaines confirment leur place de leader. Prochain match fin janvier contre la Lanterne Rouge, les Bordelaises de Mérignac.
En basket, les Tarbaises s'imposent contre Angers grâce à leur défense.
Les Bigourdans se sont imposés 57 à 49, une victoire qui replace le TGB au milieu du classement. Dans un match qu'il ne fallait pas perdre, les Tarbaises ont fait le boulot pour dominer Angers dimanche au quai de l'Adour. Une victoire de 8 points acquise au terme d'un combat intense où les défenses auront pris le pas pour les attaques. De retour de blessure, Carla Leite a remporté l'attaque de Tarbes en inscrivant 22 points.
Le Stade toulousain remporte son match face aux Harlequins en Champions Cup.
Les Rouges et Noirs ont défait les Harlequins 19 à 47 hier dans une rencontre décisive entre les deux favoris du groupe dans le cadre de la deuxième journée de Champions Cup. L'équipe a marqué 7 essais. La prochaine rencontre pour les Toulousains sera contre Toulon le samedi 23 décembre à 21h05.
Le TFC continue sa course en Europe, mais...
Les hommes de Karl Martinez-Novel ont réussi à se qualifié pour les barrages de Ligue Europa en battant 1-2 le LASK alors que l'Union Saint-Gilloise se tenait en embuscade 2-1 en défaisant les Anglais de leur côté. En Ligue 1, c'était un nouveau match contre un concurrent direct hier. Le TFC affrontait le Stade Rennais dans un duel d'équipes qui lutte ces dernières semaines pour ne pas finir dans la zone de relégation. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge 0-0.
Belle prestation pour le Phoenix de Toulouse en Star League.
C'est une double victoire, la première contre Chartres mardi 12 décembre en 8e de finale de la Coupe de France. Les Toulousains se sont imposés 27-33 et continuent l'aventure sans trop être inquiétés. Ils ont remis le couvert 33-29 dans un derby occitan contre l'équipe de Montpellier samedi, mettant ainsi fin à la bonne série du rival régional. Le Phoenix finit la semaine quatrième, toujours derrière le peloton de tête, Montpellier, Nantes et Paris.
Ces sportifs originaires d'Occitanie sont les préférés des Français d'après ce sondage.
L'entreprise de sondage Odoxa a réalisé au cours du mois de décembre une enquête auprès des Français pour savoir qui était leur sportif préféré, l'événement sportif qui les a marqués au cours de l'année. Et l'Occitanie et Toulouse se sont cocorico illustrés dans ce classement. Antoine Dupont, cette année de Coupe du Monde de rugby, Toulousain d'adoption, originaire des Hautes-Pyrénées, de Lannemezan, et le sportif préféré des Français, juste devant Kylian Mbappé, la victoire du 15 de France contre les All Blacks en phase de poule de la Coupe du Monde de rugby a été choisie comme performance la plus marquante de l'année. Autre sportif, mais cette fois 100% toulousain, c'est Léon Marchand, le nageur du TOEC, qui fait son entrée dans ce classement. Il arrive à la 4e place. Chez les sportives préférées des Français, c'est la championne de ski de bosse venue de l'Ariège et de l'Avelanais, Perrine Lafont, qui s'illustre. Elle arrive à la 2e place. Au cours des championnats du monde cette année, Perrine Lafont a réalisé un doublé historique en décrochant 2 médailles d'or en simple et en parallèle.
La Corinne Saint-Félix qui aussi, on mentionne, alors merci pour avoir fait des flashs tout au long de cette année. Le TFC qui va recevoir le Benfica en Ligue Europa. Voilà, on a l'information et ça fait plaisir.
Bien sûr.
Oui, ça fait plaisir de les recevoir après.
Ça fait plaisir de continuer dans la Ligue Europa, surtout.
Déjà.
Bon, on va terminer avec déjà, c'est déjà pas mal. Tout de suite, les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Évidemment, on va commencer par Coraline. Je cherchais une transition avec le fait que vous étiez pieds nus, là, tout de suite, mais j'ai pas de...
Je ne suis pas pieds nus, je suis en chaussettes.
Oui, super. Bon, du coup, vos tops et vos flops.
Mon top, on va parler de biathlon. Justine Brézé-Boucher est bel et bien de retour cette saison. Vainqueur du sprint avec 12 secondes d'avance sur la Norvégienne Ingrid Tendrevold. Et sans faute au tir, la Française a continué sur sa lancée en terre suisse avec la poursuite, terminant encore une fois à la première place avec 25 secondes d'avance sur une autre Française, Julia Simon. Et pour terminer cette étape, la Française a sorti en 20/20 au tir, et une belle performance sur les skis qu'il a fait encore terminer une fois sur la plus haute marche du podium pour la Mastart. Et de 3 donc, ils ne sont que 3 Français et Françaises à avoir réussi l'exploit de gagner le sprint, la poursuite et la Mastart sur la même étape dans le même week-end. Sandrine Bailey, Martin Fourcade et donc maintenant Justine Brézé-Boucher. La Française prend la tête du classement devant Tendrevold. Prochaine étape dès le 4 janvier à Oberhof en Allemagne. Et mon top, ce sera pour la diffusion du Challenge Cup, déjà bien moins suivi que la Champions Cup. La diffusion partielle de la Challenge Cup ne permet pas de créer une ferveur autour de cette compétition. Pour exemple, ce week-end, les supporters de l'USAP et de la section paloise n'ont pas pu suivre leurs équipes à la télé. Les matchs n'étaient disponibles que sur le site de l'EPCA.
Et ça vous a fait mal, de ne pas voir votre section paloise ce week-end?
Exactement, surtout j'ai même pas pu aller au stade, voilà.
En plus ?
Exactement.
Et vous, pourtant, vous payez un abonnement ?
Oui, mais pourtant je travaille aussi
ah oui, c'est vrai.
À Toulouse.
J'ai un métier.
Problème de distance.
Mais du coup, sur le site, ils étaient dispo en direct ?
En dis... Ouais, mais bon, sur le site.
Sans commentaire.
Ce qui est, ouais, ce qui est quand même moins accessible que je trouve sur les chaînes du groupe France Télé ou bien encore
ouais, tout à fait.
De Canal. Plus.
Très bien, on défile les tops et les flops comme les pellicules d'un film. Et on va avec Anne-Françoise, donc on continue avec vous.
Et bien moi, je vais commencer par mon flop. Mon flop, ce sera pour le PSG qui s'est fait remonter à la dernière minute et même dans les arrêts de jeu, je crois bien, contre le LOSC ce week-end. Donc apparemment, tout le monde est bien frustré, bien énervé. Donc on va voir un petit peu comment ils vont réussir à se...
Pour les supporters du PSG.
Et bien même les joueurs, l'entraîneur, enfin tout le monde était vénère dans ce que j'ai lu comme commentaire.
Ça fait du bien de les voir tomber un peu des fois, non ?
Oui, alors après, on va voir un petit peu comment ils gèrent la frustration, quoi.
Ouais. Surtout parce qu'on rappelle que le dernier PSG Lille, 7-1. Avec le but le plus rapide de l'histoire du PSG ou de la Ligue 1 avec Mbappé qui marque au bout de 20 secondes.
Alors c'était de l'avant-dernier parce que le dernier PSG Lille, ça s'était terminé en 4-3 où Messi avait marqué
Mbappé,
minute, qui avait
Hakimi,
sauvé la tête de Galtier. Les joueurs avaient célébré ça comme si c'était une finale de Coupe du Monde alors que finalement c'était une simple victoire en Ligue 1.
Voilà, donc ça promet toujours du beau spectacle et le match qui était pas trop mal hier soir. Personne ne l'a vu ici. Moi, j'aime bien regarder, j'aime bien m'infliger des douleurs le dimanche soir. Et votre top ?
Et mon top, ce sera rugby. Ce sera pour le Stade Toulousain parce que ça fait bien plaisir de les voir reprendre un petit peu du poil de la bête. Pourquoi vous faites la tête, Jonathan ? Franchement, ils ont fait une super belle prestation.
Oui, ils ont joué 25 minutes, ils en ont mis 50. Merci, bonsoir.
Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a quelques combinaisons qui étaient vraiment chiadées, qui sont passées comme une lettre à la poste, et ça fait plaisir. Je trouve qu'en défense, ils se sont moins troués que ce qu'on a pu voir en top 14. On sent vraiment qu'ils... Alors, moi, je me disais, ah oui, mais bon, c'est peut-être parce que c'est pas non plus le niveau top 14, Cardiff, tout ça. En fait, les Harlequins, ils chauffent quand même en ce moment. Ils ont battu le Racing à la dernière journée. Donc, ils sont troisième, je crois. Ils sont troisième de leur championnat. Donc, c'est pas non plus de la Pro D2. Donc, voilà, soyons contents que le Stade Toulousain reprenne un petit peu confiance et remette un petit peu ses automatismes en place.
Le maillot des Harlequins qui a double effet. Qui permet de régler la colorimétrie de sa télé.
Tout à fait.
Abominable.
C'est un bon test.
Un carré bleu, un carré rouge, un carré noir, carré vert, je crois, vert bleu. Enfin, il est très moche, ce maillot.
Et au milieu, leur numéro pris en sandwich dans les couleurs.
Voilà, c'est ça. Et puis le joli maillot blanc et jaune fluo du Stade Toulousain. Symbole du Stade Toulousain avec Peugeot et l'espace et tout ça. C'est particulier ce maillot jaune et bleu fluo. Ils ont un logo Peugeot.
Surtout que il me semblait que le
il était
maillot...
que contre que contre Bordeaux, il me semble.
En plus, je trouve que les maillots de cette année de Challenge étaient super sympas.
C'est à voir. Surtout
que normalement Toulouse joue traditionnellement toujours en rouge, sauf quand ils vont au Munster avec.
Alors en même temps, comme les Harlequins, ils ont toutes les couleurs sur eux. Bah nickel, ils sont obligés de faire
pour
jouer
le
les autres.
C'est vrai que contre les Harlequins, c'est un peu compliqué, mais ça permet de régler.
T'as pas le choix, t'es obligé de jouer en jaune en fait, c'est la seule couleur qu'ils ont pas. Ou en bleu. Pas Clermont, Clermont est pas embêté par exemple.
C'est vrai. Merci beaucoup. 47 à 19, on l'a vu donc pour ce résultat entre les Harlequins et le Stade Toulousain. Et Corentin, on termine avec vous pour ces top et flop.
Alors on va commencer avec mon top, j'en avais déjà parlé la semaine dernière et je me dois d'en reparler cette semaine. Une très belle page du sport français qui a été écrite par les handballeuses à moins d'un an des JO. Troisième titre de championne du monde pour les filles entraînées par Olivier Crumbles. Victoire 31-28 au terme d'un match plutôt bien géré. Les Bleus se sont sortis du casse-tête, je dirais même du labyrinthe défensif proposé par les Norvégiennes qu'elles avaient déjà battu en phase de poule. Donc très content pour nos Françaises qui ont mené une très belle campagne de bout en bout. Et j'enchaîne maintenant avec mon flop et on va rester sur du rugby, sur de la Champions Cup. Si le Stade Toulousain fait la tête, il y a beaucoup de clubs français qui font la tête. Ce week-end, donc, se jouait la deuxième journée de Champions Cup avec beaucoup d'équipes, à part le Stade Toulousain et Bordeaux, qui ont enchaîné deux victoires. Les autres sont un petit peu à la traîne, défaite du Racing, du Stade Français, de Bayonne, de Toulon. Même La Rochelle, notre double champion d'Europe en titre, n'arrive pas à sauver les meubles. Je crains que cette année, elle soit vraiment délicate pour nos clubs français. On espère vraiment que le Stade Toulousain arrivera à poursuivre sa bonne dynamique. Pour Bordeaux, on leur souhaite, voilà, juste...
En tout cas, on leur souhaite.
Voilà, en tout cas, on leur souhaite. Voilà.
On leur souhaite d'être là, ouais, parce que en effet, là, il va falloir peut-être enclencher la seconde pour les clubs français, parce que là, c'est pas le lièvre et la tortue, c'est le lièvre et l'escargot.
Peut-être mettre la première.
Oui.
Alors, on pense à Bayonne, on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs dans le Béarn, et peut-être pas que de la section paloise, qui a perdu d'un point face au Munster, après d'un point face à Glasgow. après un match nul au Munster.
Oui.
Là-bas, chez eux.
C'est une très belle campagne qu'ils proposent pour l'instant avec
ils sont troisième
des ambitions.
De leur
et ils sont pas là pour juste essayer de jouer petit bras, donc ça fait plaisir de voir de l'ambition aussi de leur côté. Par contre, du côté Stade français, du côté du Racing, moi je suis un petit peu déçu parce que c'est des équipes qui sont quand même censées avoir les effectifs pour pouvoir un petit peu jouer les troubles faits dans une compétition comme celle-là, mais on sent qu'ils veulent faire la priorité pour les places de 3e à 6e en top 14 pour espérer être barragiste.
Ouais, bah, je pense qu'ils s'étaient dit que cette année, c'était l'année ou jamais pour profiter de la Coupe du Monde et du coup de l'absence des internationaux dans les autres équipes peut-être.
Ah bah oui, parce qu'ils ont battu le Stade Toulousain.
Mais voilà.
Bayonne a battu le Stade Toulousain, donc pendant la Coupe du Monde, donc ça, enfin pas pendant, un petit
et Paris aussi,
juste avant.
Ouais. Ils étaient en préparation. Ouais. Donc,
et Paris aussi, juste après. Enfin voilà, c'est évidemment ils sont. Le problème, c'est évidemment c'est plus intéressant pour eux peut-être stratégiquement de s'intéresser au top 14, mais c'est un peu dommage de laisser tomber la Coupe d'Europe qui est.
Là, peut-être que ça sera un débat. Hein. Est-ce que après un match nul face au Munster et une défaite d'un point face à Glasgow, et puis on verra ensuite. Hein, est-ce que les Bayonnais auront fait une belle Coupe d'Europe? Ça sera peut-être le débat. On en parlera peut-être à la fin de cette campagne européenne pour les Bleus et Blancs. Tout de suite, il est l'heure de retrouver l'invité de cette émission.
Esprit Sport, le face à face.
Il y a un invité qui est champion du, bien sûr. Alors ça s'appelle la réalisation à l'américaine. Hein. Vous avez des envies de Noël, Coraline?
C'est la réalisation en chaussettes.
Exact. La chaussette a glissé, pardon.
Vous avez jeté une chaussure.
Ça s'est lié tout seul.
Très bien.
Je délie.
On refait le lancement? Allez, regardez, on le refait à l'américaine. Ça sera dans le best-of. Hein. Vous n'allez pas y passer à côté. Tout de suite, l'invité du jour.
Esprit Sport, le face-à-face.
C'est bien, vous avez bien fait attention qu'il n'y ait pas l'autre élément qui se joue en même temps. On est ravis de recevoir donc un champion du monde aujourd'hui. Bonjour Hugo Cuino.
Bonjour tout le monde.
Alors vous êtes professeur d'EPS au collège de Cadour et en octobre dernier, vous êtes devenu ni plus ni moins que le champion du monde de beach wrestling. Alors je ne sais pas si je l'ai bien prononcé.
Wrestling.
Ah oui, c'est vrai qu'on a une américaine aussi en plateau. Félicitations.
C'est ça, exactement. Merci beaucoup, c'est très gentil.
Alors, on a même un de vos élèves qui est avec nous, il a quelque chose à vous dire.
Bonjour.
Voilà, un de vos élèves qui est au collège à Cadour, qui a voulu participer à l'émission pour vous écouter. Et justement, première question, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette discipline, nous expliquer un petit peu cette pratique pour tous ceux qui ne connaissent absolument pas cette pratique du...
Beach wrestling.
Voilà.
Ok. Mais bon, ça a très inspiré de la lutte déjà olympique, hein. C'est du coup une pratique qui se ressemble beaucoup, et mais avec des règles beaucoup plus simplifiées. C'est-à-dire qu'il y a un cercle au sol, et le fait de faire chuter son adversaire au sol ou de le faire sortir du cercle, ça te rapporte des points, et au bout de 3 points, on gagne le combat. Et du coup, c'est des matchs qui sont très dynamiques, très rapides, où il y a finalement déjà le match se joue qu'en 3 minutes. Et du coup, c'est plaisant à voir parce qu'il n'y a pas de moment où vraiment on s'ennuie. Alors, pour les combattants comme pour les spectateurs, ça va.
Ah oui, parce que pour vous, ça doit être très dynamique. Des combats de 3 minutes, ça doit être. Au niveau du cardio, ça doit être assez imposant quand même.
Ah, ben c'est très éprouvant, surtout que c'est dans le sable. Du coup, les appuis et tout ça sont très, très fuyants. Et oui, ça demande beaucoup de cardio, d'énergie, d'explosivité, de réactivité, d'être toujours en alerte parce qu'il y a quand même quelqu'un en face qui va te faire chuter.
Oui.
Donc, faut être sur ses gardes. Voilà, c'est ça.
Et alors, on va en parler, évidemment, lutteurs sur sable. Alors, on a beaucoup les images des lutteurs qui se roulent par terre dans ce fameux cercle. Vous, comment vous gérez, comment vous vous adaptez à ce sable?
Alors, c'est ça. Alors, comparé à la lutte olympique, il n'y a pas de lutte au sol. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a une chute, le combat se met en pause et puis on doit reprendre debout. Et du coup, ça amène une dynamique très différente de la lutte, où on doit rester debout. Et ça se rapproche des luttes traditionnelles qu'on fait en Afrique ou dans le Moyen-Orient. Et du coup, voilà.
Est-ce qu'on peut avoir un petit peu l'image comme les sumo où ils sont dans un cercle, ils essayent de sortir ou de se faire tomber, même si c'est quand même compliqué?
Alors, c'est un peu ça, exactement. Sauf qu'il y a beaucoup moins d'impact et c'est très technique. Malgré tout, quand on n'est pas lutteur, on ne sent pas trop, mais la technique pour faire chuter son adversaire, il y en a des milliards. Et faut connaître toutes les parades, faut connaître toutes les attaques, faut connaître vraiment tout pour pouvoir pas se faire avoir et surpasser son adversaire.
Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur cette pratique, vous, comment vous en êtes arrivé là à pratiquer cette lutte sur sable? Est-ce que vous êtes uniquement de la Haute-Garonne? On sait qu'il n'y a pas la plage, à part à la Prairie des Filtres. Comment vous êtes arrivé à pratiquer sur du sable?
En fait, moi je viens de l'île de la Réunion. Ça fait que 2 ans et demi que je suis à Toulouse. Donc le sable, je connais bien, je suis né dedans, je suis resté sur la plage toute ma vie pratiquement. Et en arrivant à Toulouse, justement, du coup, bon, j'ai intégré déjà un très gros club de lutte olympique, donc où je m'entraîne la plupart du temps, quoi. Je passe la moitié de ma vie là-bas. Et j'ai vu qu'il y avait des compétitions de lutte sur sable, du coup, je me suis dit, tiens, je pourrais essayer, ça pourrait être cool. Et j'ai très vite accroché le milieu qui me rappelle la Réunion avec le sable et combiné à la lutte, mon sport qui est vraiment, je suis vraiment à fond dedans. J'ai trop bien aimé, j'ai bien accroché, j'ai performé assez vite et du coup je suis rentré du coup en équipe de France assez vite dans le parcours et j'ai pu faire les étapes de championnat du monde qui m'ont permis ensuite de décrocher ce titre.
Justement, on va en parler de ce titre. Comment vous avez alors participé, on a vu que vous étiez arrivé vite en équipe de France. Comment on se prépare, parce qu'on n'a pas tous des bacs à sable à la maison. Comment vous préparez, comment vous vous mettez en condition pour vivre ces moments de championnat du monde?
Alors, il y a deux choses. Effectivement, on n'a pas tous un bac à sable à la maison, mais à Toulouse, on a de la chance d'avoir le Krebs, où s'entraîne, où il y a une grosse structure avec du sable à l'intérieur. Et du coup, ça, pour s'entraîner, c'est vraiment le top. Surtout que c'est chauffé.
Ah oui, c'est pas le vieux sable humide auquel on pense.
Non, c'est du sable de grande qualité, couvert. Voilà, les conditions sont top. Et puis surtout après durant les entraînements de lutte olympique, il y a des phases où je m'entraîne spécifiquement sur la lutte sur sable, enfin comme si j'étais sur sable, pour pouvoir maximiser, optimiser mes entraînements et du coup acquérir de nouvelles techniques, quoi.
Les techniques, justement, il faut pas simplement avoir beaucoup de force physique, il faut savoir déstabiliser son adversaire, apprendre les parades. Athlétique, c'est sportif complet pour être en lutte sur sable.
Ah oui, ça demande vraiment, faut être physiquement très complet, tant en termes de force que d'explosivité que de souplesse, faut vraiment être. Mais alors, c'est ça, vous avez bien dit que c'était pas un jeu de force pure, c'est même la technique prime sur la force, et la technique avant tout, quoi.
C'est d'abord le cerveau et après les muscles.
Oui, c'est ça. Et comme dans beaucoup de sports de combat, hein, c'est comme ça. Et je veux dire, en plus, comme c'est comme beaucoup de sports de combat aussi, c'est par catégorie de poids. Et du coup, plus tu es musclé, et plus tu vas rencontrer des gens musclés, et finalement, c'est pas vraiment très rentable.
Vous, du coup, c'est la catégorie des moins de 80 kilos?
C'est ça, exactement.
Voilà, alors déjà 80 kilos de muscle, ça, 80 kilos de muscle, ça commence à faire mal déjà quand on commence à prendre des coups. Corentin?
Oui, j'avais une petite question à vous poser sur la gestion des combats, comme c'est des combats qui sont très courts. Comment est-ce que vous faites en termes de... Est-ce que vous avez des stratégies ou est-ce que vous avez du temps pour vous adapter à un adversaire, à un style qui est particulier? Ou est-ce que finalement c'est vraiment du feeling pur et simple?
Ah oui, non, effectivement, on analyse bien notre adversaire. On peut faire des séances vidéo, d'analyse vidéo, des techniques qu'il préfère, des techniques où il est très à l'aise, où il faut faire attention... Effectivement, il faut bien analyser son adversaire et puis les compétitions sont sur plusieurs jours. Du coup, il y a les phases de poule le jour 1 et les phases finales le jour 2. Et du coup, là, ça nous permet aussi de nous adapter et de voir un peu bon qui est en face de nous, qu'il faut faire attention. Et bien sûr, on rentre pas dans un combat sans avoir un peu appris sur son adversaire parce que sinon, on peut se faire surprendre très facilement. Et puis, comme c'est qu'en 3 points, les matchs, c'est très rapide. Il suffit de se faire surprendre une ou deux fois et le match peut être perdu, quoi. Donc on n'a pas trop droit à l'erreur là-dessus, il faut bien connaître son adversaire, il faut bien connaître c'est vraiment ses habitudes, ses réflexes et tout ça pour le contrer le plus possible, quoi.
Et au niveau de l'organisation des compétitions, vous avez dit qu'il y avait 2 jours, et en termes de combat par exemple, pour votre titre de champion du monde, vous avez dû mener combien de combats pour arriver jusqu'au bout?
Alors j'ai dû faire 4 combats le jour 1 et 3 combats le jour 2. Et pour au niveau de l'organisation des combats, c'est vraiment pas facile à gérer parce que on se prépare une demi-heure à l'avance, 3 quarts d'heure, ou de, au niveau mental pour faire monter la pression, pour vraiment se mettre dans une bulle un peu de guerrier où pendant 3 minutes ça va être vraiment, vraiment la guerre. Et du coup, la pression elle monte très fort, très haut et sur un temps très limité. Et du coup, ensuite, une fois que le combat est terminé, il faut gérer aussi cette redescente de pression. Parce que 3-4 heures après, on a un autre combat et il faut savoir se renouveler, se faire des cycles comme ça où on peut monter en pression et redescendre sans que mentalement on explose parce que ça peut, cette gestion est très importante parce que il suffit que ça soit mal géré et qu'au bout du deuxième, troisième combat et on n'est plus du tout pour la suite, on n'est plus du tout dedans mentalement, on est parce que c'est pas facile de gérer cette pression.
Il faut canaliser l'envie aussi de bien réussir, hein, parce que c'est un championnat du monde, c'est pas rien quand même. En plus, vous êtes allé en Turquie pour aller décrocher ce titre. Donc, si au bout, vous avez dit, c'est des rounds de 3 minutes, si au bout de 6 minutes, vous êtes plus dedans déjà, c'est un petit peu embêtant.
c'est clair. C'est pour ça que c'est très difficile à gérer. Surtout, se remettre dedans. Après un combat, ok, on redescend en pression. On se remet au repos, on se glace un coup et on y repart. Et quand on y retourne, on se remet dans une dynamique très forte à haute intensité. C'est dur, très dur pour le corps, tant physiquement, mentalement. C'est pas facile.
Et du coup, est-ce que vous avez un coach mental pour vous aider à gérer un peu ces différentes phases dans une compétition?
Oui, effectivement, dans ce genre de compétition, il y a plusieurs coachs qui nous accompagnent. Donc il y a le coach plutôt cadre technique où il y a les qui fonctionnent vraiment sur nos adversaires, comment ils sont, qu'est-ce qu'il faut faire. Le coach un peu plus physique qui va nous entraîner et nous pousser un peu à bout et bien sûr le côté mental, l'accompagnement, enfin un peu obligatoire tout ça effectivement.
Vous nous avez dit donc il y a toute une préparation, plusieurs coachs derrière vous, un voyage en Turquie. Comment vous financez tout ça? Parce que on rappelle, vous avez un métier à côté, hein, vous êtes professeur de PS à Kadour, en Haute-Garonne. Oui. Comment tout ça est financé?
Alors effectivement, j'ai de la chance d'être prof de PS. Alors c'est pas le cas de tous les membres de l'équipe de France et d'avoir un travail à côté. Heureusement, la Fédé de lutte nous défraye tous ces transports, tout le transport, tout le logement, toute la nourriture.
Ah oui, heureusement que les championnats du monde n'étaient pas à Canet-sur-Canet-Roussillon, quoi. Ça aurait été moins fou, quoi. Là, vous avez pu en profiter d'aller en Turquie, c'est pas mal.
Oui, non. En vrai, c'est ben, la Fédé, je remercierai jamais assez la Fédé pour ça, pour nous soutenir autant financièrement. On n'avait rien eu à payer, c'est top. On est dans les meilleures conditions possibles pour réussir, c'est cool.
Le rêve, c'est peut-être pour vous de faire des championnats du monde à La Réunion? Et de gagner à domicile surtout.
Ça serait trop bien, mais j'en doute quand même.
Est-ce qu'il y a une perspective d'évolution pour cette pratique, pour peut-être les JO 2027, si je dis pas de bêtises?
Exactement, et la perspective d'évolution, c'est des joueurs qui soient inscrits au panel sportif des JO 2027. Du coup, c'est toujours en liste d'attente pour savoir si ce sport sera accepté dans la liste des sports qui seront aux JO. Mais c'est un peu dans l'air du temps, en gros, les sports de plage, les sports où les règles sont faciles à comprendre, où c'est dynamique et court. C'est un peu dans l'air du temps, ces sports-là. Et du coup, ça convient bien à la beach wrestling qui a de plus en plus d'audience et qui a de plus en plus de monde qui s'y intéresse parce que c'est fun et c'est quand même exigeant sportivement.
Puis il y a pire quand même, être dans le sable, généralement on pense que c'est plutôt et dans des endroits où il fait beau. Vous nous avez pas, donc on a parlé de la préparation pour des potentiels JO, c'est prévu pour 2028 peut-être?
Alors, c'est toujours selon les attentes.
Parce que voilà, si ça acceptait, ça serait peut-être pour les JO 2028 qui seront à Los Angeles.
C'est ça, exactement.
Là où il y a du sable, évidemment. Il y a quelques plages, paraît-il. Voilà, ça va être assez incroyable si on arrive à vous voir là-bas lors de cette période. Comment vous avez vécu le sacre, un titre de champion du monde? Maintenant, vous êtes la star du collège auprès des élèves. On l'a vu il y a quelques minutes. Auprès des collègues aussi, peut-être.
Oui, ils étaient tous très contents pour moi. Et bon, franchement, ça m'a vu aussi un peu un aboutissement. Je suis très content d'avoir ce résultat-là. Je m'entraîne tous les jours comme un fou. Je passe mon temps soit au collège pour travailler ou soit en entraînement ou pour progresser. ça me fait du bien d'avoir un peu des résultats comme ça, parce que ça me montre que je fais pas tout ça pour rien et que je sacrifie pas trop ma vie pour rien. Je suis content que ça se passe bien, du coup.
Vous avez eu un fan club en revenant à Cadour au collège?
Ouais,
ils avaient fait
une équipe bleu-blanc-rouge derrière vous pour votre premier cours post-championnat du monde, du coup.
Ouais, c'est ça.
C'est des choses qui motivent, non, peut-être imaginer un retour en tant que champion, c'est quelque chose qui vous donne une hargne en plus, peut-être.
Carrément, mais j'ai envie de réitérer ça et j'ai envie de faire plus. Ce serait incroyable de continuer. Bon, peut-être pas jusqu'au JO 2028, parce que bon, à ce moment-là, peut-être que c'est très dur, hein, de l'intensité de tous les jours, de s'y mettre et tout ça. C'est de tenir ça sur plusieurs années. C'est mentalement, va falloir être très 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 solide. Je suis pas sûr d'être capable, mais on verra. Mais en tout cas, pour les gamins, pour qui ont vécu ça et vu ça, c'est génial, parce que ça a donné quelques vocations et c'est le but aussi.
Et comment vous... Enfin, maintenant, vous êtes presque un modèle, peut-être, pour certains. On n'a pas tous eu un champion du monde en prof de sport. Comment vous arrivez à gérer entre les cours au collège à Cadour et votre emploi du temps de sportif?
Alors, ce qui est cool, c'est que dès le début de l'année, ils m'ont regroupé toutes mes heures et sur 3 jours, c'est-à-dire que j'ai que 3 jours où je vais au collège. J'ai des très grosses journées. Mais au moins le reste du temps, je peux passer mon temps à m'entraîner et voilà, m'entraîner.
Rassurez-nous, vous entraînez pas avec les élèves. C'est au collège.
J'ai cru comprendre qu'il y avait des cycles lutte en cours en ce moment.
Ah bah du coup, attendez, avoir un professeur de PS qui nous enseigne la lutte alors qu'il est champion du monde de lutte.
Non mais c'est quelque chose quand même. Hein. C'est génial. Hein.
C'est quand même incroyable.
Non mais les élèves, ça les touche vraiment.
Ah bah oui, ça doit être une motivation incroyable pour aller en cours, et puis même en tant qu'élève, on peut se la raconter un peu après.
Un petit peu quand même, hein.
C'est clair.
Déjà, on peut parler à son prof à la radio, tout ça.
Mais paraît-il non, que c'est pratique. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière de sportif ou même de professeur?
Ben écoutez, j'aimerais bien faire quelque chose aussi sur des titres sur la lutte olympique. Donc là, je me concentre pas mal, j'ai quelques compétitions internationales qui arrivent. Donc voilà, je vais essayer d'être bon sur tapis aussi.
Eh bien écoutez, voilà. Peut-être qu'on vous retrouvera en tant que... peut-être une nouvelle fois. Alors je ne vais pas vous mettre la pression, hein. Mais peut-être qu'on vous retrouvera en tant que champion d'Europe, peut-être. Qui sait, on verra. En tout cas, on vous le souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Hugo Cueno, d'avoir été avec nous. Et bonne continuation, bon courage pour la suite.
C'est gentil, merci beaucoup.
Dans quelques instants, on retrouvera une chronique. On va là aussi parler des petits poussés. Eux, ils n'ont pas les pieds dans le sable, ils ont les pieds sur terre, quoique. On va parler de l'US Revel dans quelques instants, qui, en Coupe de France, ont tiré ni plus ni moins que le PSG. Voilà, des joueurs amateurs qui vont jouer contre Mbappé, Donnarumma et compagnie. On va en parler juste après avec Paul Albedel, rédacteur en chef de La Voix du Midi Lauragais, qui sera avec nous pour nous en parler, car il a assisté au tirage au sort. Et c'est juste après WAM avec Last Christmas. Merci d'être avec nous. c'est pas le... Ouais, réalisation américaine, écoutez. Ouais, c'est un peu ça. On dit à Coraline, notre réalisatrice. T'as son top jingle chronique ?
Esprit Sport, la chronique.
Ah non, réalisation est américaine. On n'a jamais menti, c'est tout le temps en direct. Il n'y a rien qui est coupé. Ah, si, je parle pas.
C'est fait maison.
Eh ben, il parle pas. Et ben, ça y a rien. Des vacances.
Voilà. Mais c'est gentil, ça. Dites donc, on va voir quand je serai absent que si vous allez me remplacer, Anne-Françoise. Le petit poussé, on va parler d'une histoire tout de suite qui nous plaît. Voilà. Erwan n'est pas là, lui qui aime les petites équipes. C'est là, on est vraiment au top du top. C'est-à-dire que l'US Revel, attiré en Coupe de France, après avoir éliminé Blagnac, va rencontrer le PSG. Alors, le PSG, tout le monde connaît à peu près Kylian Mbappé. Même si il a chuté. Même si tout le monde n'est pas forcément fan de foot, tout le monde connaît au moins Kylian Mbappé. Alors cette semaine, nous nous fêtons les 1 an de la défaite en finale de Coupe du Monde. Voilà, le couteau, la plaie, c'est le sympa, pansement. Ça. Mieux vaut tirer une bonne fois et après on a plus mal. On va retrouver évidemment donc le PSG qui va jouer soit à Castres, soit à Toulouse au Stadium. Alors on ne sait pas trop pour l'instant, je ne sais pas trop si la décision est prise.
C'est que le stade municipal de Revel, ça ne contient pas en fait, hein, on est d'accord.
Une question sérieuse ou...
Non.
Ah, non, c'est trop petit pour répondre à la question. Du coup, on va peut-être avoir quelques éléments de réponse avec Paul Albedel, rédacteur en chef de La Voix du Midi, Laura Gay. Bonjour Paul.
Bonjour à tout le monde.
Et vous étiez donc avec l'US Revel lors du moment du tirage au sort. Comment les joueurs amateurs ont vécu cette annonce, cette incroyable annonce ?
Ben, c'était assez incroyable, c'est le mot, puisque ils s'étaient tous réunis. En fait, ils avaient prévu de faire leur repas de Noël. Donc, quand on est arrivé au clubhouse, il y avait plein de cadeaux au pied du sapin. Mais ils se doutaient pas que le plus beau des cadeaux, il n'allait pas venir... du sapin, mais plutôt de l'écran. Donc ils avaient installé un écran pour suivre le tirage au sort. Et donc c'était le dernier groupe, parce qu'il y avait le tirage au sort s'est effectué par groupe. Donc il faisait partie du groupe du Paris Saint-Germain, mais c'était le groupe D, donc le quatrième et dernier. Donc il a fallu attendre que tous les autres groupes soient attirés. Donc je vous laisse imaginer un petit peu l'impatience et comment l'excitation est montée tout au long de la soirée. Et puis le groupe D est arrivé, donc il y a eu une première petite frayeur quand le nom de Dieppe est sorti, parce qu'en fait Dieppe c'était un des seuls clubs, il y avait deux clubs où Revel avait la possibilité de se déplacer, voilà, puisque ça fait partie des plus petits clubs, donc à deux divisions d'écart, obligatoirement le match est inversé et se joue chez le plus petit club. Mais Dieppe est un seul niveau au-dessus de Revel, ou au même niveau, je ne sais plus. Donc, dans ce cas-là, il fallait traverser toute la France. Donc, il y a la première frayeur quand Dieppe est sorti, soulagement quand ils ont su que c'était pas eux qui devaient affronter Dieppe. Et puis, plus ça avançait, plus il restait deux clubs, et notamment il restait toujours le Paris Saint-Germain. Donc, il y a d'abord eu la sortie de la boule Revel, avec un premier cri de joie. Et puis là, ça a été Brahim Asloum qui faisait le tirage au sort, l'ancien boxeur, a mis un petit peu de temps à sortir le deuxième.
Il a un peu entretenu le suspense. Ouais.
Voilà, et on entendait des Paris Saint-Germain dans la salle. Enfin, voilà, tout le monde espérait à voix haute que l'ogre parisien sorte, et ça a été le cas. Alors là, je vous raconte pas l'explosion de joie dans le clubhouse, les vidéos là qui ont été tournées. Nous on a tourné une vidéo, mais le club a également tourné une vidéo. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux et même du monde, parce que la vidéo du club, elle a été vue au Brésil, en Italie.
Ah oui, ça fait le tour du monde véritablement.
Ouais, voilà, parce qu'en fait le Paris Saint-Germain, voilà, c'est une marque mondiale, hein, donc voilà, forcément. Et puis c'est des pays qui sont très foot, donc voilà, ça, il y a eu vraiment une belle joie. Et alors, ce qui a été assez étonnant, c'est que bon, voilà, vous avez certainement vu les images, tout le monde a sauté de joie, crié, chanté, voilà. Et puis 10 minutes après, tout le monde s'est assis, et puis on a vu les premières larmes apparaître sur les joues des joueurs, parce qu'ils étaient vraiment très très émus. En fait, ils étaient en train de se rendre compte qu'ils allaient jouer contre les meilleurs joueurs du monde, quoi.
Voilà. Et puis l'aveu d'un ancien sportif pro, Adil Rami, a dit que pour les joueurs amateurs c'est incroyable, par contre pour les clubs pro c'est assez embêtant, parce que
faut aller jouer
à Revel, quoi. C'est pas fou.
Faut pas se trouver en fait.
Non, après bon
y a peu de...
on va pas jouer au pronostic, Revel, on a beaucoup d'espoir sur eux, mais bon, ça, le PSG reste le PSG et...
après clairement ils auraient peut-être plus de chances de passer contre Dieppe que contre le PSG.
Faut pas se blesser aussi, surtout.
Oui, c'est ça. Et donc, du coup, les joueurs pro aiment pas forcément ces tours de Coupe de France face à des clubs amateurs. Mais en tout cas, on leur souhaite le meilleur à cette équipe de Revel. Est-ce qu'on sait, Paul, est-ce que vous avez l'information, la Voix du Midi Lauragais, s'il va se jouer à Toulouse ou à Castres ce match? On sait pas encore. Alors, peut-être.
On n'a pas l'info officielle. C'est Castres qui devrait tenir la corde. Nous, on vous cache pas que on attend depuis ce matin la confirmation. Mais si la confirmation ne tombe pas, c'est que tous les détails ne sont pas réglés. Voilà, il y a des questions de sécurité encore à régler.
Et Toulouse pourrait accueillir au stade. Ouais.
C'est le choix numéro un du club de Revel qui a été a priori accepté par toutes les parties. Si ce n'est qu'il y a encore la préfecture qui doit valider l'option parce qu'on ne reçoit pas le Paris Saint-Germain dans n'importe quelle condition.
Non, c'est ça. Sûr. Et pour le coup, c'est là où Toulouse peut peut-être jouer sa carte de la sécurité. On a l'habitude de recevoir le PSG au stade.
Oui, voilà, mais je vous cache pas que si les Revellois souhaitent accueillir le PSG à Castres, c'est pour une bonne raison. En
fait. C'est plus près.
Bonne raison, déjà c'est plus près pour les supporters. Et puis c'est un stade que les joueurs parisiens ne connaissent pas du tout et dans lequel ils n'ont pas l'habitude de jouer, contrairement au stadium où tous sont au moins venus une fois jouer. Le stade Pierre Fabre, c'est un public qui est très très près de
Revel. C'est ça aussi les questions de sécurité
terrain.
Parce que on sait qu'au foot on a vraiment pas envie d'avoir des supporters proches de la pelouse, mais
Parce qu'à un moment il y avait un pesage, il me semble, à Castres.
En tout cas le garde-corps, il y avait des supporters qui pouvaient se mettre autour. Alors est-ce que
après le rugby et le foot ils ont pas les mêmes consignes de sécurité? On sait qu'à Ernest Vallon typiquement on fait 3 mètres, on a les pieds sur le terrain, quoi. On sait qu'au foot
clairement les discussions doivent porter sur ça, hein, sur la sécurité autour de la pelouse, du match, parce que bon voilà, ça traîne, hein, ça traîne a priori. C'est quasiment acté à voilà.
C'est les détails de sécurité qui posent.
Mais je pense qu'il y a vraiment cette question de la sécurité qui est pas tout à fait réglée, et donc nous on attend l'officialisation dans la journée. On sait qu'il y avait une réunion prévue en préfecture cet après-midi. Bon, pour le moment on n'a toujours rien. À suivre. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de joueurs revellois qui sont originaires du secteur de Castres. Donc eux sont très contents aussi de pouvoir jouer à Castres pour cette raison-là. D'ailleurs, sur le match précédent contre Blagnac, le club avait délocalisé une billetterie à Castres, justement parce qu'ils sont très soutenus dans ce coin de la Puissance. Et puis, c'est moins de 30 km, hein, Castres-Revel. On peut imaginer qu'il y aura une belle fête et qu'il y aura beaucoup de supporters revellois au stade Pierre Fabre. 12 500 billets qui risquent de partir très, très vite.
Et on pourra dire que Luis Enrique et Mbappé ont joué à Pierre Fabre à Castres.
C'est ça.
Ouais, pas commun.
C'est incroyable. Ouais, quand on était avec les joueurs là l'autre soir, on leur parlait des noms et voilà.
Là, ça les fait rêver parce qu'ils sont, c'est pas des sportifs pro, on le rappelle, hein, c'est des sportifs amateurs. Il y a des joueurs qui sont je vais dire une bêtise, hein, mais ils sont boulangers, postiers ou bouchers la semaine. Et qui vont affronter des gens qui voient la télé, qui regardent, qui supportent peut-être. Donc c'est un rêve pour eux, quoi.
C'est exactement ça, il disait le directeur sportif de Revel. Leur club dans lequel ils jouent tous les week-ends, qui vont affronter les stars du PSG. Et bon, on va espérer que les parents seront conciliants, et même si c'est la rentrée scolaire le lendemain, ils auront la permission d'aller.
Justement, une petite négociation avec les directeurs d'école.
Une autorisation de sortie par le club, une petite dérogation, mot pour excuser les élèves s'ils sont fatigués de l'anglais.
Signé par Mbappé, ça.
Ça passe.
Le carnet de correspondance signé par Mbappé, c'est pas mal.
Ça passe. Faut seul carnet de correspondance qui restera en bon état.
Faut juste espérer que le proviseur soit pas pour Marseille.
Voilà, c'est ça. Puis imaginez s'il y a un exploit en plus. Le taux d'absentéisme.
La fête risque de se poursuivre.
Et justement, j'en profite pour parler un petit peu de l'émission de la semaine prochaine. On va parler de souvenirs dans le sport, de souvenirs qu'on a eu dans le sport, des exploits peut-être même. Peut-être que ça va être le début d'un souvenir mémorable pour les joueurs de Revel qui vont affronter le PSG. Merci beaucoup, Paul Albedel, d'avoir été avec nous. On vous rappelle qu'on vous retrouve dans la Voix du Midi Lauragais. Bon courage, Paul, parce que je pense que vous allez couvrir cet événement.
Oui, on sera là, on va faire un dossier spécial, on va raccourcir un petit peu nos, nos fêtes, nos jours de congé, mais voilà, on peut pas passer à côté d'un événement comme celui-là, donc on prépare quelque chose de très très sympa pour le numéro du jeudi précédent le match, voilà, dans la voie du Midi le Rogue.
Et ce sera donc à retrouver dans tous les kiosques. Tout de suite, on va débattre justement autour d'un sujet d'actualité presque chaud, quoique. Une question simple ce soir. Avec ses équipes en sport collectif, la France consolide ou augmente-t-elle les chances de médaille d'or au JO 2024? Un petit peu de contexte. Antoine Dupont va rejoindre l'équipe de France de rugby pour les Jeux Olympiques. Les handballeuses françaises ont décroché ce week-end une troisième couronne mondiale. C'est de bonnes choses. On en pense à... Je sais plus si... j'ai dit quoi?
Non, rien.
Vous me faites un 3?
Non,
c'est pas pour moi. D'accord, vous me faites plus de petits signes, je suis très déçu. Donc on a beaucoup de choses, on a Léon Marchand aussi, beaucoup de... Alors forcément c'est de la région et ça fait très plaisir. On voit qu'il y a vraiment une vraie dynamique des sports collectifs en France, un véritable savoir-faire. Est-ce que tous ces succès-là sont de... Alors de bonnes choses, oui, mais est-ce que à l'approche des JO 2024 l'année prochaine, est-ce que vous voyez les chances de médaille d'or s'agrandir? Est-ce que... Vous voyez qu'on va être couvert d'or au sport co. Alors, il n'y a pas que le handball et le rugby.
Oui, c'est ça. En fait, il y a plein de sports. Il y a plein de sports où on a des vraies chances de médailles. Je pense aussi au volley masculin, par exemple, ou au hand masculin aussi. Hein.
Il y a le basket en 3 contre 3 aussi,
ouais.
Le basket et olympique en 5 contre 5.
Ouais.
Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sports collectifs.
Et après, il y a tous les sports aussi qui se jouent par équipe.
Le fleuret, l'escrime.
Voilà, moi je pense à l'équitation aussi,
l'équitation.
Où on a des vraies chances de médailles en jumping ou en complet. Alors peut-être pas d'or, mais peut-être que si quand même.
Ben voilà, c'est pour ça. Donc on est sur une belle dynamique. Est-ce que vous pensez que on va augmenter, exploser en sport collectif les chances de médailles d'or? Corentin, je vous sens pas trop.
Les chances, oui. Est-ce qu'on va exploser les compteurs réellement? À mon avis, non. De faire... une campagne aussi belle que ce qu'on a eu aux dernières Olympiades, ça risque d'être très compliqué parce qu'on avait quand même fait un carton assez plein sur pas mal de disciplines. Peut-être que sur le basket, on pourrait passer de l'argent à l'or, par exemple, avec une génération qui s'est bien renouvelée, avec Victor Wembanyama qui pourrait intégrer cet effectif pour essayer d'apporter pas mal. Donc, à voir. Moi, je pense qu'il y a des chances, mais j'ai peur aussi peut-être qu'il y en ait beaucoup qui passent à côté de l'événement. Peut-être que la pression sera trop grosse autour des Jeux à Paris. Est-ce qu'on arrivera à bien gérer? Je ne suis pas certain.
Coraline?
Je pense que sur les sports collectifs, le hand, en effet, que ce soit féminin ou masculin, je pense que le masculin, on est ultra favori à mon avis. Et féminin, avec la victoire de ce week-end, on est quand même aussi dans les favoris maintenant. Et d'ailleurs, elles l'ont dit, hein, maintenant, l'objectif, c'est Jeux Olympiques. Oui, dites-moi.
Je peux vous rappeler l'équipe de France de rugby dans la dernière Coupe du Monde? Favori, machin, paf. Allez, merci, bonsoir, on a... À peine
le
passé.
Le coup de couteau dans la plaie.
Oui, mais c'est pour ça. On a beaucoup de bon espoir.
On était favori au rugby, mais on n'avait jamais gagné une Coupe du Monde. N'empêche que sur le handball et au niveau du handball féminin ou du basket, c'est des équipes qui ont des références, qui ont des joueurs qui ont de l'expérience.
Aussi,
qui n'ont pas Ben O'Keefe sur le terrain, des fois.
qui a été élu meilleur arbitre au monde, je crois.
On va pas relancer le débat de l'arbitrage. C'était un petit trait d'humour.
C'est bien, entre la Coupe du Monde, la défaite au foot et la défaite au rugby, là, on a décidé de bien réchauffer les braises, raviver les braises. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Françoise?
Pour le coup, il y a aussi le rugby à 7.
Oui. Avec Antoine Dupont qui est déjà parti en préparation. Il va partir en préparation, là?
Il part pendant les vacances, non? C'est pas ça?
Je crois qu'il fait le dernier match là,
les vacances,
avec le stade.
Il va partir la semaine prochaine.
Ça, ouais.
Éventuellement, il y a le foot aussi. Hein.
Alors, le foot, c'est un petit peu compliqué parce qu'au dernier JO en foot à Tokyo, ils se sont fait sortir honteusement, malgré une belle équipe, avec Gignac notamment.
Ouais. Là, il y aura Mbappé.
Mbappé, en tout cas, voulait les faire. Hein,
ouais, Mbappé voulait les faire.
Il faut voir si Mbappé le fait. On aurait Mbappé au foot, Wembanyama au basket. Alors, peut-être, ça, c'est à mon avis, c'est un petit peu compliqué. Antoine Dupont au rugby. Léon Marchand à natation.
Léon Marchand. Ouais, mais c'est pas un sport d'équipe.
Non, ça dépend s'il participe au relais.
Oui, ou à la natation synchronisée pendant qu'on y est.
Non.
Qui est aussi un sport par équipe quand même.
Oui, voilà, on parle aussi de toutes ces pratiques.
On a des chances sur le 4x400 aussi en athlétisme.
En athlétisme aussi, ouais. Oui.
On a une belle équipe de ce côté-là. Après, c'est plus sur par exemple le 400 mètres, le 4x100 mètres où on risque d'avoir des difficultés. Je pense qu'on a perdu sur certaines disciplines en athlétisme là aussi pas mal de bons éléments. Donc ça va être peut-être difficile de ce côté-là. Ouais.
Bah, globalement, après tout, tout ce qui est athlétisme, on a du mal. La perche.
Ah, depuis que Christophe Lemaitre est parti, Renaud Lavillenie. De toute façon, la perche, non, médaille d'or, on oublie. Il y a un mec qui s'appelle Arnaud Duplantis.
Voilà.
Le mec, il a 20 ans, il a pété tous les records en 6 mois. Il est incroyable. Sa maman est française d'ailleurs. On est passé à ça d'avoir un champion à la perche.
Un champion, un très très
quelle succession
champion.
Ça aurait été fantastique. Arnaud, ouais. La succession, Lavillenie, Duplantis.
Et parce qu'en fait, Duplantis, son idole, c'est Renaud Lavillenie, donc le supporter de Clermont.
Il l'a beaucoup aidé à grandir d'ailleurs, Renaud Lavillenie, pour Duplantis, sur en tout cas son parcours lorsqu'il était junior après.
Donc la médaille d'or à la perche, on oublie.
On oublie.
Ça, c'est pas la peine d'y penser.
Au décathlon, on espère qu'on l'aura.
Ouais.
Il n'est toujours pas qualifié.
Oui, d'ailleurs, Christophe
Lemaitre.
Kevin Mayer.
Il n'est toujours pas qualifié.
Il a renoncé
aux
épreuves de Brisbane.
Ouais.
Ouais.
Exactement, ouais.
Il est en train de s'entraîner, donc c'est pas vraiment un sport collectif, même s'il y a plusieurs
sports.
Des sports collectifs qui sont collectifs et pas les athlètes. Pour vous, est-ce que vous trouvez que ces JO 2024 en sport collectif, c'est l'endroit où on a le plus de réussir, le plus de chances de succès? Ou est-ce que vous pensez que les individualités sur les autres sports, qui restent majoritaires, si je dis pas de bêtises, quoique non, pas du tout d'ailleurs.
Je pense qu'on a quand même beaucoup plus de chances sur les sports collectifs.
Il y a un vrai savoir-faire français sur le sport collectif.
Bah, je pense que depuis 10 ans, en fait, ça monte en puissance parce que quand on voit les Olympiades, bon, vous étiez pas né, hein, mais de 92 ou de 96, franchement, les équipes françaises brillaient pas spécialement.
92 à Atlanta.
Mais non.
Non, Los Angeles.
Barcelone.
Pff, j'ai essayé, écoutez.
T'étais pas né.
Bon, moi, j'étais pas né, non, effectivement.
Voilà.
Mais c'est pas parce que j'ai pas né qu'on connaît pas.
En fait, ce qui est vrai, c'est que depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, eh ben, on a des équipes qui montent en puissance et en fait qui se disent aussi que c'est possible. Et je pense que les handballeurs français ont été les premiers un peu à défricher cette terra incognita un peu. Et de plus en plus, on voit que eh ben, les Français, ils tentent leur chance. Alors qu'avant, je sais pas s'ils y croyaient vraiment, finalement.
Ils se tirent vers le haut.
Oui, je pense. Ah oui, moi je pense qu'il se tire
dans cet esprit olympique, il va y avoir un élan de... Parce qu'on parle beaucoup de l'esprit de l'olympisme dans le village. Il y a tous les sportifs qui sont ensemble, autant les handballeurs que les sauteurs à la perche, que les sauts en longueur, que tout, que les athlètes en général. Et ils disent que vraiment, on a entendu plusieurs témoignages de Teddy Riner ou de Clarisse Agbenienou, qui disent qu'il y a vraiment un vrai esprit d'équipe dans ces JO. Et donc peut-être que ça va tirer tout le monde vers le haut et pourquoi pas battre des records à domicile.
Je pense qu'au sein de la délégation, ça fait l'émulation, quoi. Aussi.
Est-ce qu'on n'appréhende pas un peu ces JO?
Si.
J'en profite pour en général.
Côté sportif ou côté organisation?
Les deux. Les deux. Je pense qu'il y en a qui apprennent la piste et il y en a qui apprennent le RER, à mon avis.
En 2024, on va vous proposer une présentation de chaque sport collectif à la place de la chronique. Donc, on va parler d'un sport olympique. Donc, on ouvre un petit peu cette parenthèse rapidement. Les Jeux Olympiques, on apprend un petit peu au niveau organisationnel.
On
s'attendait à faire les épreuves de natation sur la scène.
Ça va donner de nous. C'est surtout ça. En termes d'image, j'ai peur qu'on passe vraiment.
Pour des chèvres.
C'est là où j'aime bien le visuel, j'adore le visuel, c'est JO Paris 2024.
Oui.
La ville lumière, elle va en prendre un coup. Mm-hmm. Parce qu'Anne Hidalgo qui a dit déjà que les transports ne seront pas prêts.
C'est honnête.
Oui, bah,
c'est parce qu'on attendait.
Payer 1300 balles de logement, vous allez voir l'honnêteté, ouais, ça va être pas mal.
Ah, mais les tickets vont augmenter, ils font
x2.
Les tickets de métro vont augmenter,
mais
oui.
Mais pas que pour les.
Non, pour tout le monde.
Pour tout le monde.
C'est gratos. Vous en avez parlé dans une chronique d'ailleurs, Anne Françoise, qu'on peut retrouver évidemment en podcast, Esprit Sport. Bien écoutez, on verra si tout ça a été bien filé, si on va avoir peut-être un médaillé olympique ici en plateau avec nous, ça serait incroyable.
Ah
oui, on signe.
D'accord, ça veut dire que ça met un petit peu la pression, je vous cache pas. tout de suite, on va faire les pronos. Et oui, ça c'est le jingle tout pile, parce qu'il y a eu un tout pile la semaine dernière. Félicitations Coraline, qui avait vu juste sur le score exact entre le TFC et l'ASK en Autriche. 2-1, hein. Félicitations Coraline, on applaudit Coraline.
Merci.
Très radiophonique, merci. Ça. le prochain match, Stade Toulousain, 6ème en top 14, face à Toulon, 2ème en top 14, c'est ce samedi 23 décembre, 21h. Top départ, Coraline, vous avez 30 secondes.
Eh bien, écoutez, je vais miser sur une victoire du Stade Toulousain. Je les sens bien en forme là, après leur victoire contre les Harlequins.
Les Harlequins.
Les Harlequins, voilà. Mais ouais, non, en effet, je pense que sur une victoire, elle est bonus offensif et 20 points d'écart. Voilà, ce sera tout pour moi. Aidez-moi là, non 5 secondes
vous
à
avez 30 secondes, vous prenez 30 secondes. Écoutez, c'est la règle, c'est comme ça. On a un arbitre autour du plateau. Si on commence à gratter des secondes par-ci par-là, on va crier au scandale.
Siffler, quoi.
C'est ça. Justement, Corentin, top départ, 30 secondes pour Stade Toulousain-Toulon ce samedi à 21h.
J'ai des bons souvenirs de Stade Toulousain-Toulon qui se sont déroulés au Boxing Day, dont notamment une petite fessée, un 31-0 il n'y a pas si longtemps. Je vois bien les Toulousains continuer sur leur lancée. Antoine Dupont finir son année en beauté avant de partir avec le 7. Donc une victoire avec 20 points d'écart, un bonus offensif pour les hommes du Gaumont là, je dirais 35 à 10, ouais, ça serait pas mal.
Un petit peu comme Coraline au final.
Voilà.
Très bien. Mais écoutez, on
a confiance en nos rouges et noirs pour la semaine prochaine.
Et en Coraline visiblement. Voilà, 30 secondes. Anne-Françoise, pareil, top départ, 30 secondes.
Ouais, bah moi je suis d'accord avec mes collègues. Déjà parce que Toulouse ils montent en puissance, hein, j'ai déjà dit sur mon top. Et puis parce que Toulon ils ont pris une défaite quand même ce week-end à Northampton. Donc à mon avis mentalement on est plutôt du côté de Toulouse. Antoine Dupont il va avoir envie de bien finir. Donc moi je les vois bien gagner avec un bonus offensif.
Plus 20 au hasard.
Non, moi je vais être encore plus soyons fous histoire de me démarquer pour pas voilà parce que je sais pas si on gagne un tout pile quand on est plusieurs. Moi je vais te dire 40 à 10.
Très bien, eh bien c'est noté.
À peu près hein, parce qu'on peut pas faire 40.
Merci beaucoup. La semaine prochaine, ce sera le temps de Noël et on fera quand même une émission. On retrouvera évidemment des souvenirs sport de toute l'équipe. Merci d'avoir été avec nous. On partagera ce moment évidemment ensemble. Belle semaine. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même radio, même heure.